Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume de l'été. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la maison de Radio France pour un Masque et la plume. Consacré en ce début d'été, consacré à l'actualité littéraire avec les Smith & Wesson de la critique. J'ai nommé Patricia Martin des Petits Matins, des Week-ends de France Inter, Jean-Claude Raspienjas, de La Croix, Frédéric Becbédé, du Figaro Magazine. On devait recevoir aussi Arnaud Vivian, mais on me dit qu'il est resté à la plage, ce que je peux comprendre. Le temps est magnifique. On parle ce soir des livres de Yann Moix, Antoine Bello, Cristina Comencini, Alessandro Barreco et Guillaume Musso. Barreco est italien, Musso il est français. Dans le courrier de la semaine, Nadine Doyen de Troyes défend David Fuenquinos contre le masque. Vos chroniqueurs Olivia, Jean-Claude, Arnaud étaient comme des hyènes affamées. Vers la beauté de Fuenquinos offre une immersion éclectique dans l'art et ce roman va inciter à franchir les portes des musées. C'est un livre construit de façon originale et traité avec intelligence et finesse. Jean-Loup Zamboni, qui est libraire à Verdun dans la Meuse, juge que le sort réservé par le masque à ce pauvre Grégoire Delacour fut parfaitement ignoble. On aurait cru des chiens affamés. Tiens, avant on était des hyènes, là on est des chiens. Des chiens affamés se jetant sur une carcasse faisandée. Oui, c'est vrai que c'était un peu faisandé. C'est vrai. Il en a été de même il y a quelques mois pour Olivier Adam. Quant à ce que vous avez osé dire de Arunta Tiroi, il est clair que vous n'aviez pas lu son livre. Sinon, en tant que libraire, donc à Verdun, des livres comme celui de M. Delacour sont ceux dont les ventes nous permettent de proposer à nos lecteurs des ouvrages plus difficiles. Par exemple, le Jérôme de Jean-Pierre Martinet. Alors, je remercie ces auteurs populaires de nous aider à diffuser la littérature. C'est une thèse qui se défend.
Hein. Mais c'est pour ça que vous avez mis au programme Guillaume Musso. Cette semaine.
Absolument. Madame Vouvoie, c'est nouveau. Brigitte Abric de Lyon. J'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker que m'avait prêté une amie. J'aime beaucoup cette amie, mais je lui en ai voulu. En revanche, je viens de lire La falaise des fous de Patrick Grainville. Splendide roman ample et nourrissant que Le Masque avait d'ailleurs loué. Et l'on revoit d'un œil nouveau, ça c'est vrai, les œuvres de Monet et autres peintres qu'a évoqué le narrateur Nathalie Lanoé, qui habite Conakry, en Guinée, où elle nous écoute en podcast, n'a pas aimé, et ça je peux le comprendre, Le suspendu de Conakry de Jean-Christophe Ruffin. Quelle déception. Je ne sais pas, nous dit Madame Nathalie Lanoé, je ne sais pas si Monsieur Ruffin a eu l'occasion de venir à Conakry, mais je n'en ai pas l'impression. Pour ne citer que quelques inepties, nous n'avons pas de marina, telle que décrite dans le roman. Aucun quartier du nom de Yoff ne fait partie du plan de cette ville. Et le franc CFA n'est pas la monnaie utilisée en Guinée, mais bien le franc guinéen. Pourquoi alors avoir voulu situer son histoire à Conakry? Et pour terminer, il existe un pont à Conakry, nous dit cette auditrice, surnommé le pont des pendus, et depuis ce matin de janvier 1971, où les Guinéens ont découvert le visage de la répression politique menée par Sékou Touré. C'est encore autre chose.
Et Ruffin est ambassadeur.
Non, il était ambassadeur.
Oui, il était ambassadeur.
Et pas en Guinée, mais en...
L'ambassadeur, en général, connaît sa géographie.
Au Sénégal.
Oui, mais il connaît sa géographie, en général, un ambassadeur.
Oui, mais surtout, on a parlé de ce livre-là, qui est le début d'une série. Il y en a un autre qui sort en octobre.
Ça sera peut-être pire.
Ça sera toujours à Conakry. Enfin, Françoise Leclerc de La Baule vient de refermer très émue, et on la comprend, n'est-ce pas, Frédéric, le livre de Philippe Lançon, Le Lambeau, que j'avais choisi de lire suite au Masque et la Plume. Rarement, je n'avais ressenti une telle émotion lors de l'une de vos émissions. Vous étiez tous vrais, juste, pudiques, et le critique s'effaçait pour ne laisser voir que l'homme blessé. Longue vie à Monsieur Tarbes, surnom de Philippe Lançon, vous le savez, à l'hôpital des Invalides. Et Philippe Chavernac juge que Le Lambeau est un livre puissant, fort, intense. On est happé par la lecture malgré l'effroi. Et puis on se dit qu'il faudra le relire à tête reposée. Je suis surpris de rencontrer un grand écrivain que je découvre à cette occasion. Voilà, ça c'est la suite du courrier sur le livre de Lançon. On en a reçu beaucoup auparavant. Allez, on commence avec Dehors. La très violente lettre ouverte au président de la République que publie chez Grasset. Yann Moix, l'auteur de Jubilation vers le ciel et de Naissance. Ce que j'évoque aujourd'hui, Monsieur le Président, sont enfermés. Ils sont enfermés dehors, dit Yann Moix. On a compris qu'il s'agit des migrants, des exilés, en particulier ceux de Calais, dont Moix se fait l'avocat en même temps, enfin, si j'ose dire en même temps, qu'il accuse Macron de mener, je cite, une politique inique et brutale, accablant d'ailleurs dans son livre aussi bien Édouard Philippe que Gérard Collomb, surnommé ici le Javert Kakoschim ou l'imperturbable première volaille de France. On voit que c'est plus qu'une lettre ouverte, c'est un pamphlet, écrit d'ailleurs sous le coup de la colère, en un mois et demi, et qui se termine par, je cite, un Afghan qui rêve de vivre en France est davantage français qu'un Français qui fait tout pour l'en empêcher. Et je rappelle que Yann Moix s'est vu proposer une carte blanche, c'était sur Arte le 9 juin dernier, pour son documentaire Recalais, dans lequel il filmait les candidats au départ vers l'Angleterre, et il interrogeait, il faut dire aussi, des Calaisiens exaspérés. Jean-Claude ?
Alors Yann Moix fait un travail utile, nécessaire, juste.
Ça c'est quoi ? C'est le préambule ?
C'est le préambule, d'accord. Absolument, c'est le préambule, exactement. Donc il dénonce l'attitude de la Grande-Bretagne, la libre circulation des marchandises et pas des personnes, le malaise des policiers, le désarroi des camionneurs à Calais, la répression de la solidarité et le discours présidentiel confronté à la réalité.
J'attends l'antithèse.
Tout ça est bel, bon et juste, mais il y a Yann Moix. Il y a Yann Moix dans le livre, qui encombre le livre, qui n'échappe pas à la lourdeur d'être Yann Moix, de se prendre pour Yann Moix. Et Yann Moix, il ne faut pas s'y tromper, c'est le personnage central de ce livre. Ce ne sont pas les migrants, ce n'est pas Macron, ce n'est pas Collomb, c'est lui. C'est lui qui encombre le livre de ses indignations virtueuses. Yann Moix et ses postures à la Zola, Yann Moix et ses philippiques post-adolescentes, Yann Moix et ses digressions philosophiques, Yann Moix, ivre de lui-même, voilà, et qui étale ça dans ce livre, alors que ce qu'il a à défendre et à dire est vraiment important. Et si c'était un tout petit peu effacé, son
mais
pamphlet...
Mais le sujet est traité dans le livre.
Non, je veux dire, il est encombré de Yann Moix. Bien sûr que le sujet est là, bien sûr qu'il en parle, sauf qu'il n'arrête pas de prendre des postures, de faire le post-adolescent. Il y a une morgue, il y a une arrogance, il y a une posture de donneur de leçons, il joue les fiers à bras, il est souvent ridicule, il est souvent grotesque. Et alors, comme il se laisse aller, il y a parfois des phrases absolument incroyables, quoi. Il paraît qu'à un moment, Macron se serait revendiqué de Gide, je sais pas, et lui, il écrit « Vous n'êtes pas gidien, vous êtes gideux ». Et c'est comme ça, c'est farci comme ça, tout le temps de ça. Alors, de temps en temps, il a des belles trouvailles, hein. En tant qu'écrivain, ça lui arrive. Non, mais ça lui arrive. Mais c'est égaré. Par exemple, quand il dit l'enfer, c'est les autres, mais le salut, c'est l'autre. Bon, très bien. Mais il y a un côté imprécateur, procureur. Sans arrêt, il dit à Macron, ah, mais vous serez jugé, l'histoire vous jugera. Et si tu veux, moi, j'entendais les rois maudits. Maudits, vous serez maudits. Tu vois, il y a ce côté-là dans son livre. Ouais, et pourquoi toujours ce besoin d'en rajouter? Par exemple, il a 10 pages absolument formidables sur Collomb. C'est la page 239 à 250,
qui sont très très méchants.
Mais vraiment formidables. Et dans le genre méchant, formidables. Et puis évidemment, comme il est Yann Moix, il se retient pas, il va jusqu'au bout, il s'étale et ça devient absolument grotesque à la fin. Et il annule l'effet des 10 premières pages. Il fait la même chose avec Édouard Philippe aussitôt après. Moi, ça me fait penser à ce que disait Talleyrand, c'est-à-dire tout ce qui est excessif est insignifiant. Le problème, c'est qu'il le prouve de façon un peu lamentable. Si tu veux, par son enflure, moi je trouve que Yann Moix dessert la cause qu'il était censé défendre. Et si tu veux, à la fin du livre, l'impression que ça me donne, mais c'est la mienne, c'est que c'est une sorte d'histrion boursouflé qui se prend pour une conscience. Bon. Et ça,
j'ai laissé parler, j'espère que j'aurai un peu de temps de parole, parce que moi je suis très très impressionné par ce livre. Je pense que c'est un livre vraiment non seulement nécessaire mais réussi. Je pense que le style pamphlétaire est effectivement quelque chose qui repose sur l'incantation, le lyrisme, la colère, la révolte. C'est tout à fait naturel dans un pamphlet. Je pense pas qu'il en fasse trop du tout. Je pense que pour une fois, il parle pas du tout de lui, en fait. Il parle pas de, c'est pas un récit autobiographique, il se met pas en scène. Donc c'est faux. Il s'est pas boursouflé de lui-même. C'est révolté par un sujet qu'il aborde à la fois d'une manière cinématographique avec le documentaire sur Arte et avec ce livre. Et le résultat, c'est quand même qu'on ne parle plus que de ça en ce moment. Vraiment, Macron est maintenant face à sa contradiction majeure entre je suis un humaniste et je suis un cynique, je donne des leçons aux Italiens alors que moi-même je n'accueille personne, etc. Donc en fait, je pense que on peut saluer le résultat réussi de ce travail d'écrivain qui est de vraiment de l'engagement comme Zola, comme Voltaire, vraiment digne. On étudie au bac Voltaire, Zola, voilà, c'est merveilleux l'écrivain engagé, mais quand c'est quelqu'un de vivant, alors là, on le critique, on lui tombe dessus avec autant de violence qu'il tombe sur le président de la République. Moi, je trouve personnellement que c'est courageux ce qu'il fait. Dans la plupart des pays du monde, vous écrivez le quart du tiers de ce qu'il écrit sur le président, vous allez en tôle ou vous êtes exécuté. Il faut quand même rappeler qu'il y a assez peu de pays où on peut dire des choses aussi violentes sur le chef de l'État. Je cite, « Nous avons élu un homme d'État, pas un chien de garde. Vous êtes un Bonaparte à l'envers. » Pour vous dire la vérité, c'est changer de mensonge. En laissant faire, vous faites. Moi, je trouve que c'est très très bien écrit. Votre parole est à la réalité, monsieur le président, ce que la vie est à la taxidermie. C'est quand même envoyé, quand même tout au long du livre, c'est bien envoyé.
Je trouve ça mieux écrit que les attaques contre Macron d'Edouard Louis.
Mais c'est vrai qu'il y a un point commun. Il y a un point commun, c'est une mode en ce moment d'attaquer Macron. Donc
c'est très
tendance. C'est un nouveau genre littéraire d'écrire un livre, une lettre à Macron et d'essayer.
On attend le livre de Christine Angot.
Voilà, chez Edouard Louis. Non mais le truc c'est que chez Édouard Louis c'est pour se plaindre que son père est mal au dos, hein, ou qu'il boive. Là c'est quand même sur un sujet nettement plus important et nécessaire. Et moi franchement j'applaudis parce que.
Alors je suis prêt à t'entendre. Le problème c'est que tel que tu le décris, on a l'impression qu'il est le seul. Qu'il a découvert une réalité absolument abominable, qu'il est le seul, qu'on n'entend que sa voix.
Enfin, je veux dire, ça mais fait quand même, ça fait quand même, vouloir disqualifier
ça fait quand même plusieurs, le fond enfin, ça fait quand même plusieurs années qu'il y a un certain nombre d'associations qui se font entendre. Ça fait un certain nombre d'années.
Il en parle beaucoup, des membres des associations. Il n'arrête pas d'en parler.
Pas tant que ça, précisément. Pas tant que ça par rapport à la réalité sur le terrain des associations engagées. C'est pas tout à fait le cas. Mais ça fait un certain nombre d'années qu'un certain nombre d'écrivains et d'intellectuels parle
bien
de
sûr,
ça, dénonce ça.
Dont JMG Le Clésio.
Bon, je veux dire, c'est pas de seul coup, parce qu'il y a de moi qui s'empare de ça, mais.
Non, mais tu as raison, c'est sur bien les... qu'il y ait plusieurs personnes qui disent la vérité.
Oui, mais on est bien d'accord. Mais.
Et ce serait bien que Patricia Martin s'exprime sur ce livre.
C'est vrai, hein? Je peux y aller, 5, 4, 2, 1, c'est parti. Je trouve que quand tu dis qu'il joue, moi je trouve qu'il joue pas.
Patricia s'adresse à Jean-Claude.
À Jean-Claude. Il est, et le pamphlet de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un pamphlet très violent, mais on ne pouvait pas attendre autre chose de Yann Moix. Ça lui va, au contraire, comme un gant. Alors moi, je dois dire, c'est vrai que je l'ai ouvert avec une certaine appréhension, ce livre, parce que Moix, c'est un être, il l'a dit lui-même un jour dans l'émission de Laurent Ruquier, c'est un être haïssant. Moi, j'ai du mal avec les êtres haïssants. Il manque parfois d'élégance, Yann Moix, et presque toujours d'humour. Pardon, Frédéric Becbédé, peut-être
le. Il y a des
trucs
qui sont marrants.
Mais oui, enfin, oui.
Attends, il y a la phrase,
oui,
attends,
enfin,
la phrase
non,
sur
mais
Ricoeur.
Je parle de lui en général.
Je te donne juste la citation parce qu'elle me fait marrer. C'est... Alors, il parle à Emmanuel Macron. Vous installant vous-même sous l'égide de philosophes dont vous vous réclamez d'autant plus facilement qu'ils ne sont plus là pour vous contredire.
Oui, enfin, oui, sauf que là, mais, pour ce qui est de Paul Ricoeur, il a vraiment travaillé avec lui. Hein,
c'est bien tourné. Voilà.
Absolument. Mais alors, quelquefois, je trouve que d'abord, monsieur le président, ça fait un peu, il martèle un peu, c'est un peu étouffant parce que c'est des phrases très courtes qui effectivement, c'est très bien écrit, ça c'est vrai. Le monsieur le président, toutes les deux phrases, au bout d'un moment, on se dit, mais pourquoi monsieur le président? Oui, on a bien compris que c'était lui qui s'adressait. Mais, cela étant, je trouve que la démonstration est absolument implacable, qu'effectivement, il met des faits à l'épreuve des discours, qui donne une foule d'exemples qui sont tous plus consternants les uns que les autres. Moi, j'ai appris des choses, notamment sur l'histoire d'Air France qui doit payer des amendes absolument incroyables à l'administration fiscale dès qu'Air France refuse en tant qu'Air France de reconduire un migrant dans son pays. J'ai appris aussi qu'il existait à Pôle emploi, qu'il y avait eu des annonces qui ont disparu assez vite de chargés d'éloignement. Je trouve que la force de ce livre, c'est qu'il fait une théorisation de l'exil parallèlement à ce que, quand il parle du pape, d'ailleurs il parle du pape François en étant très élogieux à son égard, qui lui théologise en fait l'exil. Et je trouve qu'il y a là quelque chose justement qui le dépasse, qui nous dépasse et qui devrait en principe conduire un peu
Et c'est surprenant de la part de Lacroix d'être contre le pape quand même, expliquez-vous.
Alors, si tu veux, le raccourci que tu fais est intéressant puisque je ne me suis pas exprimé et je note que ta défense de Yann Moix tient sur une page. La page que tu as amenée, tu nous sors tes citations, elles ne tiennent que sur une page.
Mais non, mais le livre fait 300.
Le livre fait 300. Où sont les 299 autres pages que tu pourrais prouver ce que tu as
avancé? C'est ce qu'il dit sur la France totalisante, qui est fantasmée.
J'ai dit au départ,
sur le principe même de l'étranger dont la République se targue et qui en fait est un principe. Dès qu'on a une vraie personne en face de soi, on le rejette.
Qu'ai-je dit en préambule? Que c'était un livre vrai, juste, nécessaire, utile. Oui, j'ai dit tout ça.
Non, mais quand tu dis ça, c'est toujours très, très, très dangereux.
C'est mauvais. Accordez-moi une chose, c'est d'avoir aussi dit ça.
Bon.
Et par ailleurs, tout ça est encombré de Yann Moix, qui certes n'est pas un livre autobiographique, mais il est encombré de son style, de sa prose, de ses colères, de ses trucs. Et il est tout le temps dans une posture d'imprécateur. C'est les rois maudits.
C'est les rois maudits. C'est un principe de ce type de livre.
Non, Frédéric, j'adore les pamphlets, j'adore ça. Franchement, moi, je m'y retrouve pas là, je t'assure. Et j'adore ça, les pamphlets.
Je crois qu'on l'a compris.
Pas nécessairement que j'aime les pamphlets, précisément, j'aime ça.
Non, mais on sait que tu aimes les rois maudits. Entre parenthèses, d'ailleurs, Maurice Drouin, il n'écrivait pas ses livres, contrairement à Yann Moix. Hein, il avait 40 nègres. Allez. Dehors, c'est donc la lettre ouverte au président de la République, signée Yann Moix, et c'est chez Grasset. Un livre qui tombe à pic, c'est Smith and Wesson, le dur romancier italien Alessandro Baricco, traduit par Lise Caillat chez Gallimard. Pourquoi à pic? Parce que dans 5 jours s'ouvre, je sais que Frédéric va y courir, s'ouvre le Festival d'Avignon, et que c'est la première fois que l'auteur de Soi et de Novecento se plie à l'exercice dramatique.
Et pourquoi il y aura sa pièce Smith et Wesson à
Avignon? Non, c'était ce qu'on appelle une transition.
Ah oui, d'accord.
J'essaye d'expliquer que j'ai inscrit ce livre aussi au
programme.
C'est
du théâtre.
Oui. Parce que arrive bientôt le Festival d'Avignon en 2 actes et en 1902. Zogma, Baricco fait dialoguer Smith and Wesson, son père, évidemment, on l'a compris, enfin non, on l'a pas compris, les créateurs du fameux pistolet et de l'entreprise d'armement où Jean-Claude
se fournit.
Mais deux sortes de bouvards et pécuchets américains qui se rencontrent dans une cabane près des chutes du Niagara. Leurs prénoms, donc Tom et Jerry, Jerry Wesson, qui gagne sa vie en repêchant tous les désespérés qui se jettent dans les chutes. Et Tom Smith, lui, qui rédige des statistiques météo. Il faut ajouter aussi Rachel Green, une journaliste débutante de 23 ans qui arrive de San Francisco et dont le rédac chef attend qu'elle rapporte un scoop. Elle décide donc de se jeter à l'eau au sens propre pour raconter comment elle s'en est sortie vivante. Smith lui construit un tonneau pour faire le grand saut, tandis que Wesson récupérera en bas la jeune femme. Évidemment, on va pas dire ce qui se passe à la fin. C'est une pièce. Alors donc c'est une pièce, c'est des dialogues, mais on a l'impression que ça pourrait être un roman. C'est-à-dire, je suis très frappé. Il a fait un choix dramatique, mais ça pourrait être. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais la tête? Non mais les auditeurs ne le voient pas.
Oui. Mais visiblement, c'est le Schtroumpf grognon.
Bref, j'ai trouvé ça drôle, assez farfelu, en tout cas beaucoup plus qu'évidemment que la tragédie de Sénèque qu'on nous annonce dans quelques jours dans la cour d'honneur. Vous savez, il faut le faire, une tragédie de Sénèque dans la cour d'honneur.
Vous allez vous distraire.
Tu parles à qui là, à moi?
À toi, oui. Tu y seras, non, j'imagine.
Oui, j'y serai. Bon. Et qu'est-ce que vous en pensez?
Ah bah, un bien fou. C'est de toute façon Baricco, quoi qu'il fasse, que ce soit du théâtre, des romans.
Non, il peut faire des mauvaises choses.
Attends, il a fait son essai Les Barbares. Moi, j'avais trouvé ça très intéressant. Enfin non, moi j'aime beaucoup ce qu'il écrit parce que c'est à la fois c'est très littéraire, c'est très raffiné. En même temps, c'est presque minimaliste. Enfin, c'est d'une grande. Il dit beaucoup de choses quand même en très peu de lignes. Je trouve que c'est une comme tu l'as dit, c'est drôle. Ça, c'est une fête de l'esprit. Ça pétille tout le temps. Et les situations, par exemple, au départ, quand
l'idée est très bonne. L'idée.
Ah ben l'idée, elle est géniale. Quand Wesson est, il y en a un qui est donc Wesson est couché et Smith est debout au début de la pièce et c'est d'un drôle. C'est un comique de situation. Absolument génial parce que Wesson se met au lit, il raconte tous les 4 mois parce qu'il veut remettre en ordre ses organes. Alors il se met au lit quelques jours. Enfin, c'est complètement dingue, mais bon, c'est comme ça.
Ce qu'on fait tous.
Quand
on veut mettre nos organes en place.
Enfin, ça donne lieu à un dialogue très drôle. Et puis le fait de les imaginer, même si ce serait encore plus drôle si on les voyait, mais les imaginer comme ça, c'est extrêmement drôle. Il y a un pied dans la vie, un pied dans la représentation parce qu'évidemment, c'est du théâtre. Donc c'est théâtral, mais c'est aussi dans le réel. Moi, j'ai beaucoup pensé à Ionesco. En lisant, il y a comme ça des torsions des choses, il y a un côté absurde avec des êtres qui sont totalement démunis, qui veulent tout maîtriser et qui en fait sont emportés par le flot de la vie, qui ne maîtrisent rien du tout. Et ce sentiment qu'il y a, et souvent chez Baricot et aussi chez Ionesco, ce sentiment du destin, qu'en fait le destin est là et que c'est lui qui aura le dernier mot. Je trouve que c'est à partir d'une situation folle, il fait quelque chose de tout à fait vraisemblable. On marche, on est dedans. Enfin, moi je me suis régalé de la première à la dernière.
Frédéric, un peu moins. En fait, j'ai eu l'impression, un peu comme quand on voit des pièces de Florian Zeller, c'est-à-dire, ça peut être brillant, par moments, on peut se marrer, et puis quand on sort de la salle, après, on ne se souvient de rien.
La dernière, elle n'était pas marrante. Hein.
Oui, mais je ne sais pas, j'ai eu l'impression plus d'un exercice de style. C'est vrai, il y a des répliques drôles. Quand ils disent, c'est quand même stupide qu'on s'appelle Smith et Wesson, et c'est quoi votre prénom? Tom et moi, Jerry. Bon, c'est des trucs... voilà, c'est vrai qu'il y a lieu de la comédie. Bah, je vois la tête de Jean-Claude, il a pas énormément ri à cette réplique-là.
Attends, il n'a pas encore parlé.
Mais au fond, ce que je reproche, c'est que c'est un peu creux, comme le tonneau qui chute dans les chutes du Niagara, qui est le sujet du livre.
Dont on ne sait pas ce qui va se passer.
Voilà.
Mais on s'en fiche, ça sert à rien. C'est vrai que ça sert à rien de raconter une histoire comme ça.
C'est un peu le problème.
C'est formidable.
C'est un peu le problème. C'est un peu le problème. C'est qu'on sort de là et on se dit, bon, oui, on passe un bon moment, et puis voilà... Voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Il y a aussi un côté conte philosophique à la Paolo Coelho, là, qui fatigue
non,
un peu.
Non,
si, c'est genre, dans la vie, il faut avoir un projet, même si c'est absurde.
Mais, sauf que c'est du deuxième degré, là, c'est même du 18e. Chez Paolo Coelho, ça n'en est pas.
Ouais, je sais pas.
J'ai du mal avec les Paolo Coelho depuis très longtemps.
Mais si, tu nous l'as fait lire pour le masque, je m'en souviens.
Mais il y a très longtemps.
Si je me suis assise, sur le bord de la rivière, assise et j'ai pleuré. Tu nous as fait lire ça, oui.
De temps en temps, j'inscris un petit...
Il y a très longtemps.
Depuis que je suis passé avec Emmanuel Schmitt, c'est mieux dans le genre.
C'est tous ces trucs-là. Mais c'est vrai qu'il est un peu quand même, et en plus marrant, mais il est quand même dans ce registre de contes philosophiques. Et moi, je suis désolé, à part Le Petit Prince, les contes philosophiques, j'ai un peu du mal. J'aime pas qu'on m'explique des enjeux moraux.
Est-ce que tu aimes Le Petit Prince, toi?
Ah oui, j'aime beaucoup Le Petit Prince. Ouais.
Jean-Claude?
Le Schtroumpf grognon va faire le Schtroumpf grognon. C'est-à-dire, alors Tom et Jerry, alors excusez-moi les gars, mais si ça vous fait rigoler, si ça vous fait rigoler, comment tu t'appelles? Il m'appelle Tom et moi je m'appelle Jerry, donc Tom et Jerry, ouais, ça vous fait rigoler. Et alors toi, tu passes un excellent moment, c'est inouï ce que c'est drôle.
Enfin,
ils s'appellent Smith et Wesson, mais attendez les gars, c'est pas eux qui ont inventé le pistolet. Attendez, c'est super marrant. Non mais attendez,
c'est vrai
que c'est l'été, mais c'est la super poilade sur la plage, là. Attendez, alors Schtroumpf Grognon, lui, il trouve que c'est un livre, mais inutile, sans aucun intérêt, il n'y a aucun enjeu, rien, même le tonneau. Bon, d'accord, forcément. Alors que les chutes du Niagara, c'est un décor romanesque. Il y a de quoi faire sur les chutes du Niagara. Et là, Baricot, c'est un faiseur.
T'as jamais aimé Baricot?
Si, mais plus.
Soit.
Mais bien sûr, j'ai dit si. Ça voulait dire soit, bien sûr.
Novecento, c'était bien.
Mais le précédent était déjà pas bien. Et il y a chez lui une sorte de prétention comme ça qui se faufile et qui commence à devenir, si tu veux, j'ai l'impression qu'il se noie dans le vide, il est enfermé dans son tonneau, là, il se noie dans le vide parce qu'il est plombé par sa prétention.
Tu penses pas qu'on peut éprouver du plaisir à lire ce...
Mais tu sais quoi, je vous le laisse, voilà, c'est tout, voilà. Et la fable philosophique, elle est assez ridicule. Quant à la jeune journaliste qui veut se faire un nom en sautant dans un tonneau et chute de la gare, mais où est-ce qu'il est allé?
Mais si, elle est marrante cette rachat. Moi aussi.
Il y a eu une trouvaille pas mal. C'est juste pour être en désaccord avec Jean-Claude. En fait, sur le fond, je suis d'accord. Mais
juste. Bienvenue.
Pour le plaisir de te contredire, j'ai trouvé la trouvaille intéressante. C'est quand Rachel arrive sur scène et elle les interrompt. Il y a un des deux qui est en train de raconter une anecdote. Et pendant 20 pages, Rachel parle. Et puis, quand elle s'en va, il reprend l'anecdote au moment où elle est entrée. Cette trouvaille intéressante sur le plan...
Ça, c'est fort. Non, ça, c'est vrai, c'est fort. Mais t'as bien fait de me rejoindre parce que je te rejoins aussi, c'est fort.
Bon,
totalement injuste.
C'est ce qui reste de... On peut dire que Patricia est à moitié italienne, on peut le dire.
Mais c'est ça. Alors, quand un type est beau, que je dis qu'il a quel charme et tout, alors évidemment, c'est parce qu'il est beau que je dis ça. Là, c'est parce qu'il est italien, donc c'est parce qu'il est italien. Non, c'est parce que le texte m'a plu, Jérôme Garcin.
C'était donc conseillé par Patricia Martin. Smith and Wesson, et c'est donc Alessandro Baricot aux éditions Gallimard. Toujours... Venu d'Italie, Être en vie, un roman de Cristina Comencini, la fille du grand Luigi qui est elle-même d'ailleurs cinéaste, et s'est traduit chez Stock par Dominique Vitoz. La narratrice Caterina Villarom, elle est orpheline. Elle est née avec les pieds beaux dans une famille d'ouvriers agricoles, seule survivante à 6 ans de l'incendie de leur maison. Et elle a aujourd'hui un mari, 2 enfants et un travail, puisqu'elle est monteuse de films. Et si elle part pour Athènes, c'est qu'on y a trouvé, dans une chambre d'hôtel, les corps sans vie de sa mère adoptive et de son compagnon, qui est un peintre, Sebastiano. Est-ce qu'il faut dire ou pas ce qui s'est passé? Non, on ne dit pas. C'est pas vraiment un mystère, puisque c'est
assez... Non, je crois qu'on le dit, on l'apprend assez vite, ils se sont suicidés.
Voilà, ils se sont suicidés, bah, tu l'as dit.
Ouais, je vais encore avoir du courrier.
À son arrivée, Caterina est rejointe par Daniele, le fils de prime abord exaspérant de Sebastiano, qui est son contemporain, et ensemble ils vont revisiter leur enfance, leurs douleurs bien sûr respectives, et se dire, là je cite, ouvrez les guillemets, on continue toujours, on s'arrête jamais. Comencini, bon, beau nom, bon livre, Frédéric?
Son père avait réalisé un mélodrame vraiment épouvantable, enfin très 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 dur, L'Incompris.
Oui.
Et je pense que là, elle est la digne fille de son père, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans du larmoyant, hein, misérabiliste, parce que quand on écoute, c'est vrai, enfin quand on le lit et quand on entend ton résumé, c'est vrai que elle a perdu donc ses parents biologiques dans un incendie, sa mère vient de se tuer, voilà. Et puis alors le pire, c'est qu'elle est mariée à un médecin. Et depuis Madame Bovary, on sait que quand une femme est mariée avec un médecin dans un roman, bah le pauvre, il va être cocu, quoi. Mais ça, on s'en doute assez tôt, je ne révèle rien.
Est-il cocu? Sera-t-il cocu?
Enfin, quand même, ça a l'air de...
Il vient de raconter tout le roman, quelque part. Non, déjà, les deux trucs...
C'est quand même... C'est raconté sur la quatrième de couverture du livre. Elle va rencontrer le fils... Donc,
non,
le fils du mari, enfin du compagnon de sa mère.
On ne saura pas ce qu'ils font pendant la dernière
nuit. Je n'ai rien dit, c'est toi qui en dévoile trop, là. Bref.
Bah, vous savez quoi, ça ne nous regarde pas, en plus.
Non. Moi, je pense qu'en dehors de ça, du côté un peu lourd, quoi, de l'intrigue, formellement, alors je ne veux pas accuser Dominique Vitoz, qui a sûrement très bien fait son travail.
C'est une femme charmante, en plus.
C'est pas très, très bien, c'est pas très bien écrit. Je veux dire, c'est, pour moi, on dirait un article psychologique de Marie-Claire ou de Cosmo. Je me fâche avec 2 journaux d'un coup. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas plus que ça. Ça fait partie de ces romans, en fait, moi, qui m'agacent parce que, tu sens que l'auteur veut parler de résilience. Donc on met un personnage vraiment dans une situation, disons-le, merdique. Hein, et on va voir s'il arrive à s'en sortir.
En plus, en Grèce.
Voilà.
Et alors
En Grèce, ça peut être bien.
Non, mais le côté tragédie, le côté... voilà.
Donc, c'est... En gros, tu vois... tu vois les dégâts de Boris Cyrulnik sur la littérature. Tu vois? C'est-à-dire, c'est maintenant, t'as beaucoup de livres là-dessus quand même sur des histoires de résilience. Comment je vais me reconstruire après ce deuil, ce double deuil, etc. Et en plus, orpheline, adoptée,
enfant maltraité quand même,
oui, battu, bien sûr.
Famille d'ouvriers agricoles.
Heureusement qu'il y avait un chien pour lui tenir compagnie.
C'est un détail très important. Merci de le rappeler parce que j'ai peur qu'on l'oublie ça.
Chien, son importance.
J'ai hâte de voir si Patricia a aimé, en fait.
Patricia?
Eh bien, oui, j'ai aimé. Je suis désolée. J'ai pas du tout trouvé ça misérabiliste, même si effectivement, c'est quand même extrêmement dissonant et tragique.
C'est très italien, finalement, ce livre.
Ben, justement, non. Je ne crois pas. Parce que c'est pas tapageur, c'est pas tonitruant, ça pourrait l'être. Or, justement, c'est vraiment écrit à mezza voce, c'est-à-dire que c'est très délicat. Non, mais elle est du côté, on est plus du côté du murmure que du cri avec elle. C'est très enfoui, c'est très intériorisé. Au début, on ne sait pas trop.
C'est ce qu'il appelle la résilience, oui.
On part sur plusieurs pistes, on ne sait pas trop comment l'histoire va s'infléchir. Et la clé du livre, mais on ne le comprend qu'après.
Que tu vas nous raconter maintenant.
Non, mais c'est une phrase de Deleuze qu'elle cite et qui dit, Deleuze, qu'elle a entendu un jour, que l'héroïne a entendu un jour alors qu'elle venait à Paris, méfiez-vous du rêve de l'autre parce que si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu. Et en fait, c'est ça, cette histoire. C'est-à-dire que cette femme, la mère de l'héroïne, elle est foutue parce qu'elle s'est laissée prendre complètement par le rêve d'un autre, par le rêve d'un homme. Mais ça peut être aussi valable pour cette femme-là, qui s'est laissée aussi prendre peut-être par le rêve de maternité de sa deuxième mère. Enfin, je trouve qu'il y a un faisceau comme ça sur ce que c'est que la réalité d'une vie, sur ce que c'est que... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on rejoint l'autre ou on se rejoint soi-même ? Et je trouve que la dernière scène, c'est très cinématographique.
Elle est monteuse de film.
Elle est lumineuse, elle est très belle. C'est une très belle scène.
De ce point de vue, ça rappelle des livres qui existent, des films du genre La leçon de piano, ce genre de truc.
Oui, il y a des très belles choses. Quand ils se retrouvent,
Ils
se retrouvent à l'hôtel, ces deux-là, cet homme et cette femme qui n'avaient rien a priori pour se connaître et qui tout à coup sont à l'unisson, c'est comme une chorale.
C'est beau. C'est beau.
Jérôme, tu n'as pas de cœur.
Tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'il en pense, le Schtroumpf grognon ?
Il dort. Alors, le Schtroumpf grognon, là, il réclame le droit à l'oubli. Oubliez-moi ce soir. Oubliez-moi, s'il vous plaît, parce que...
Content de venir au masque, Jean-Claude.
Oui, parce que j'ai rencontré Frédéric, j'avais jamais rencontré, ça fait plaisir.
C'est bien.
Oui. Tu vois, c'est utile.
J'ai organisé la rencontre de la Croix et du Figaro.
Oui. Non, mais voilà une mission utile. Voilà. Ce qui est moins utile, c'est d'avoir lu ce livre. Là, c'est un peu moins utile, parce que franchement, j'aurais aimé lire le livre dont tu as parlé. C'est pas celui que l'éditeur m'a envoyé.
On a dû lire quand même le même texte.
Mais tu sais, il y a des philosophes qui expliquent qu'on n'est jamais les mêmes contemporains les uns des autres. C'est un peu compliqué. Là, si tu veux, ça me fait le même effet. C'est clair qu'on a certes le même livre, ça a l'air d'être les mêmes phrases, mais on n'a pas lu la même chose.
C'est assez méchant pour toi.
Non, c'est pas méchant.
Moi, j'ai été portée par un texte.
Tu dis qu'elle n'est pas ta contemporaine. C'est quand même dégueulasse.
Mais
c'est peut-être enviable de ne pas être mon contemporain aussi. Hein, je veux dire,
Là, c'est trop compliqué pour moi.
Ah, mais oui.
Ils se prennent la tête à la croix.
Alors, moi, si tu veux, ça a eu un effet. Alors, est-ce que c'est à cause de mon habit de Schtroumpf ? Je ne sais pas. Ça a eu un effet. C'est-à-dire, ce livre, plus je le lisais, plus il glissait sur moi, mais comme l'eau sur les plumes d'un canard.
J'aime bien
ce que je veux dire par là, c'est que ça ne m'atteignait pas. C'est-à-dire, ça ne m'intéressait pas, ça ne m'atteignait pas. Je trouvais ça.
Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie, Jean-Claude ?
J'aurais souhaité, alors évidemment l'absence d'Arnaud contribue pas à ce qu'on m'oublie, mais j'aimerais qu'on m'oublie là. Voilà. Alors comme il n'y a pas Arnaud, j'essaie de voilà, il faut qu'on n'en ait plus que trois là. Mais ni émotion, ni sensation, et alors les souvenirs
comment
après
ça,
avoir lu
émotion,
ça.
Comment ni émotion, comment tu peux dire ça?
Les souvenirs après avoir lu ce livre, mais aucun, je l'ai même encore repris cet après-midi en me disant c'est pas possible, tu vas au masque, il faut quand même que... Rien, ça ne rentre pas, c'est... Voilà.
Et encore, on n'a pas encore parlé du museau, donc oui. J'ai vraiment infligé une semaine terrible, mon pauvre
Claude. Ah oui, ça, je dois dire que...
Bon, enfin, pour ceux qui voudraient suivre la vie de Patricia Martin, être en vie, donc, de Christina Comencini aux éditions...
Comencini, tu mets bien l'accent, s'il te plaît.
C'est vraiment embêté.
Pas Comencini.
Aux éditions Stock.
Il y a les films du père, on peut aller voir L'argent de la vieille, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre.
Oui, ça.
Mais c'est nettement plus satirique et méchant.
Effectivement, mais si maintenant, on va aller voir tous les films de Comencini...
On peut aussi parler de son fils, qui est ministre de l'économie. Enfin, on peut faire des trucs comme ça, si on peut.
Scarbius et moi, c'est pas moi, c'est dans le titre. C'est un roman chez Gallimard du franco-américain Antoine Bello, qui vit à New York, vous le savez, qui publie à Paris, et qui est l'auteur notamment de bons bouquins comme Les Falsificateurs, du roman américain et de L'homme qui s'envola. Et le Scarbius du titre, c'est un homme qui est atteint du trouble de la personnalité multiple, un peu comme Frédéric, TPM. Et il faut prendre de multiples au sens le plus large possible, puisque dans son cas, ça va de gardien de prison à chargé de l'Afrique au Quai d'Orsay, de moine trappiste à maître nageur ou prof de latin. Là, je cite, Scarbius n'est ni le premier imposteur, ni la première personnalité multiple. Il est le premier imposteur à personnalité multiple, une combinaison détonnante que mon devoir consiste à stabiliser avant qu'elle n'explose. Celui qui dit ça, c'est un psychiatre parisien, Maxime Leverrier, qui se donne pour mission en 77, puisque c'est quand même daté, de guérir Scarbius, lequel évidemment ne cesse de tromper le médecin, qui va l'hypnotiser une trentaine de fois, et va surtout rassembler pendant 25 ans ses études sur ce cas-là, le cas Scarbius, dans un prétendu livre paru aux éditions du Sens et que nous lisons donc aujourd'hui. D'ailleurs, à la fin, on ne sait plus qui est le plus délirant, si c'est le patient ou le thérapeute. Je trouve que l'idée est bonne. Alors là, pour le coup, j'ai trouvé ça très long et à un moment donné, un peu, enfin, une fois qu'on avait compris, un peu répétitif.
Alors, c'est la construction qui l'est volontairement, oui, puisque c'est six versions du même livre.
C'est un bouquin de 400 pages. Enfin, c'est...
Voilà, c'est d'un, il faut le dire, voilà, il y a des livres dans le livre, et donc ce voilà. psychiatre écrit six fois l'histoire de ce mytho. Et donc, évidemment, comme l'autre le fait marcher tout le temps, ça peut être peut-être amusant de relire à chaque fois une nouvelle version de cet inventeur, de cette espèce
six éditions différentes.
Alors, on va commencer par Jean-Claude, là. Est-ce que ça t'a plu, ça?
Alors, Schtroumpf-Grognon, il en a marre, il étouffe sous son costume, il va enlever son costume de Schtroumpf-Grognon, et alors là, oui. Alors là, j'ai pris un énorme plaisir.
De bout en bout?
Ah, de bout en bout.
Tu t'es pas ennuyé?
Ah, du tout.
Je ne comprends pas du tout.
Du tout. Eh bien, ton trouble me plaît. Ça me plaît que tu comprennes pas. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça excitant, jubilatoire. Je trouvais que c'était un hommage.
Jubilatoire?
Ah oui, vraiment jubilatoire. Ah oui, vraiment. C'est-à-dire que les différentes personnalités qui sont tellement multiples de ce mytho, la façon dont il s'empare de chacune de ces impostures-là, littérairement, moi, m'a absolument emballé.
C'est parce qu'il s'est fait passer pour moine trappiste que ça t'a plu.
C'est là que ça a culminé. Mais après, ça tenait encore. C'était. Et je trouve que c'est du pain béni pour un romancier. Tu vois?
Ah, pain béni.
Ah oui, voilà. Ah oui. Alléluia.
Au moins, j'essaie de me faire comprendre. Ça a l'air de vous dire quelque chose. Non, c'est vraiment la métaphore de l'écrivain. En plus, six livres, c'est le motif de la vache qui rit. C'est-à-dire que les six livres, c'est le motif qui revient sans arrêt.
Ah mais à un moment donné, où la répétition peut devenir.
Non,
un
mais
tout
justement,
petit peu
alors précisément, ça n'est pas la répétition. Non, c'est tout le temps différent. Moi, j'ai trouvé ça même virtuose. C'est un livre de double fond. Écrit par un virtuose de l'ironie. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup d'ironie, mais au sens
très fort.
Oui,
plus que dans les falsificateurs ou dans l'homme qui s'envola, ça c'est vrai.
Et je trouve que, par exemple, ses attaques contre la psychanalyse, sa défense de l'hypnose, c'est à chaque fois des leurres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser prendre à ça, c'est-à-dire qu'après ça va se retourner. J'ai trouvé que c'était un livre éblouissant sur la puissance de la littérature, sur la force de la littérature, sur ce chassé-croisé entre l'imposteur, le psychiatre, où en effet tu as raison.
Le psychiatre est complètement
taré.
Voilà, taré puis un peu exaspérant, il y a un moment donné.
Non, pas taré, c'est au contraire d'une intelligence supérieure. C'est deux intelligences supérieures, c'est deux silex qui se... Alors, c'est parfois...
J'aime bien aussi la comparaison des silex, c'est pas mal. Pour moi, c'est du pain béni, ce genre de comparaison.
Écoute, si je peux contribuer à ça... Et en gros, la philosophie se résume à un moment, il dit, nous sommes des navigateurs qui devraient constamment douter de leurs instruments. Je t'encourage d'ailleurs à le faire. Et alors, ça ne peut pas être... un mauvais livre, parce qu'on y croise Michel Simon à la page 351.
Absolument.
Donc, ça ne peut être qu'un bon livre.
Mais c'est le seul du masque qu'on croise. Hein. Je n'ai pas vu ni Bec Bédé, ni Patricia. Patricia, alors?
Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est jubilatoire. Je reprends exactement ton terme. Je trouve que c'est un feu d'artifice et ça va crescendo. Et moi, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde.
Mais tu sais qu'Antoine Bello n'est pas italien. C'est tout ça.
Mais je ne parle plus, c'est fini, je boude. Il y aura 3 minutes de silence. Au bout de quel moment, de combien de temps notre émetteur se met en.
Je veux bien parler à ce moment-là. Je prends tes 3 minutes.
Moi, je trouve que c'est en fait sans cesse basé sur le flottement. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un imposteur, il faut quand même qu'il y ait un pigeon. Un pigeon, c'est une blessure narcissique absolument épouvantable. Parce que, en fait, c'est ça dont il souffre, le et moi, avec la parenthèse. Il n'y a pas besoin de parenthèse. C'est presque le et moi qui est plus important que ce mythomane. Parce qu'au fond, à un moment donné, le diagnostic est posé. Hein, ce personnalité multiple, c'est un mytho. Et en fait, la bascule, elle peut se faire ou ne pas se faire. Quand on est un bon écrivain, c'est un mythomane. Qu'est-ce qu'il fait? Il invente, il bluffe, il embobine. C'est un mythomane. Et quand on est du côté de la fiction, eh ben on va crier au génie. Seulement, quand on est du côté de la réalité, on va bannir les gens. Et c'est tout ce jeu-là que moi, je trouve extraordinaire. Et c'est effectivement, tu as raison, c'est un livre sur la fiction, sur la littérature, sur comment ça déborde sur nos vies. Aussi sur les mécanismes de la volonté de puissance. Parce que chacun veut finalement mener l'autre. Chacun veut avoir un ascendant sur l'autre.
Oui, enfin, celui qui veut avoir l'ascendant, surtout, c'est les psychiatres. Hein, c'est pas...
Oui, mais enfin, si. L'autre, tu sais pas. Ben, tu
il
sais pas trop.
Il devient célèbre grâce à Scherbius en racontant
voilà,
sa vie.
Voilà, tout ça. Bon, voilà. Et effectivement, s'il y a une morale à l'histoire, c'est que la vérité n'existe pas et qu'on ne guérit jamais de soi-même.
Alors,
je crois que c'est ces deux choses.
Frédéric,
sur le fond, je suis tout à fait d'accord. Le sujet est génial. Le roman sur le romanesque, le pouvoir illimité de la fiction. On pourrait même dire que Scherbius cherche, comme Balzac,
moi, je dis
à concurrencer l'état civil.
Moi, je dis Scherbius, mais tu...
Oui,
Scherbius.
Non, moi, je dirais Scherbius, Scherbius aussi.
Scherbius,
tu bah, pourrais...
Oui, voilà, tu dis un schéma, voilà, tu dis pas un schéma.
Donc, sur le projet, on est d'accord. Il y a un énorme problème dont vous n'avez pas parlé.
C'est quoi?
C'est que cette histoire, elle a déjà été racontée par Woody Allen dans Zelig, et que la forme de Zelig est un documentaire, donc une sorte d'étude scientifique sur un personnage de Frégoli, si vous voulez, d'homme caméléon, que c'est exactement la même histoire, mais les étapes sont les mêmes, c'est-à-dire que Mia Farrow est psychiatre dans Zelig, elle rencontre Zelig et elle essaie de l'hypnose sur lui, elle va l'hypnotiser, il y a plusieurs séances, c'est assez longuement décrit dans Zelig.
Je pense qu'il a copié.
Ensuite, Zelig disparaît, puis réapparaît dans un nouveau rôle, exactement ça se passe dans le livre vers la page 300. Et moi, je suis désolé, j'ai été extrêmement gêné, je ne veux pas traiter Antoine Bellot de plagiaire, mais enfin, je le fais, parce que moi je trouve ça embarrassant qu'il n'ait jamais cité Zelig, j'ai pas vu de citation, il y a un film qui est cité, mais qui n'est pas celui de Woody Allen, ça m'embarrasse énormément.
Mais comment tu peux parler de plagiat? On parle d'un film. Et là, c'est un livre. Et j'insiste, moi, le plaisir que j'ai eu à lire ce livre, immense, c'est d'être vraiment dans un travail littéraire qui m'a totalement séduit. Donc, qu'il ait repris le canevas de Woody Allen, pourquoi pas?
Mais
quel rapport entre des images de Woody Allen et ce travail littéraire mot à mot, de phrases?
Zelig, c'est un classique, c'est le plus grand film sur le sujet de la transformation du besoin d'être aimé d'un homme.
Mais c'est pas le premier à faire ça.
Prend toutes sortes de formes pour être aimé.
Il finit par trouver la bonne forme.
Mais c'est pas le premier à le faire. Mais la différence, c'est pour ça que moi je vois absolument pas le plagiat. Que cette histoire les intéresse l'un et l'autre, très bien. Mais je trouve que le travail littéraire de Bellot est formidable, quoi. Mais vraiment formidable.
Et je
peux pas faire de calque, si tu veux, entre Woody Allen. Entre un roman et un film.
Mais quand tu lis le livre, moi je suis désolé, ça me gêne de lire un livre que j'ai déjà lu, que j'ai l'impression d'avoir déjà lu, une histoire déjà racontée.
Mais, oui, mais que fais-tu des changements de style, des ruptures d'époque, de la façon dont il introduit, enfin de la façon dont il se met dans chacun des personnages que lui décrit cet imposteur, et la façon dont Bellot habite chacun de ses personnages, littérairement, c'est bluffant.
J'en ai parlé, j'ai parlé de la construction, des six versions,
etc. Donc ça peut pas...
Bah oui, mais quand même, je suis désolé, quand on raconte une histoire que quelqu'un d'autre a déjà racontée avant, ça s'appelle un plagiat.
L'histoire de la littérature, elle est tissée de ça, c'est-à-dire de motifs comparables.
Oui, oui.
Où chacun a tissé
Ulysse
de
Joyce,
différente.
Mais ici, Ulysse. Là, ça pourrait s'appeler Zelig et moi.
C'est parce qu'il a simplement oublié de mettre Zelig.
Scherbius ou Scherbius.
Prochaine édition, il rattrapera ça.
Et moi.
Mais peut-être, après, j'ai réfléchi, peut-être qu'Antoine Bellot fait une blague et que le plus grand imposteur du livre, c'est lui.
Ah, mais tant mieux! Ah, mais
Scherbius et moi, ou Scherbius et moi, c'est le roman d'Antoine Bellot et c'est chez Gallimard. Donc, à la demande de Jean-Claude, La jeune fille et la nuit. Ça me dit quelque chose d'ailleurs. Ça me dit quelque chose ce titre d'ailleurs. La jeune fille et la nuit chez Calman Lévy, le nouveau roman de Guillaume Musso, l'auteur, je le rappelle, le plus vendu en France avec 1,5 million d'exemplaires en 2017.
34 millions.
32 millions dans le monde entier. C'est beaucoup moins quand même que 34.
Oui, c'est déjà pas mal.
32 millions dans le
On
monde
sent
entier.
La jalousie dans votre manière de
Appelé
présenter.
En urgence par Maxime, qui est son ami d'enfance, Thomas, le narrateur, donc quitte New York et revient en France dans le lycée Saint-Exupéry d'Antibes, où il a fait ses études et dont ses parents étaient les proviseurs. Antibes qui est, comme le sait Frédéric, la ville natale de Guillaume Musso.
De Guillaume Musso, bien sûr.
Voilà. Thomas et Maxime ont un secret qui remonte à l'année 92 et qui menace de ressurgir à l'occasion de la rénovation du gymnase du lycée, où un cadavre est emmuré, je le dis, parce que c'est même là...
Un cadavre, sait-on jamais, il y en a peut-être plus.
Et même sur la quatrième de couverture. 25 ans plus tard, tous les anciens sont là, sauf deux d'entre eux, qui se sont littéralement évaporés, mes enfants. Il y a un prof de philo, Alexis, et donc la cagneuse, Vinca, dont tous les élèves étaient amoureux. Et là, quand même, je cite, « Elle personnifiait une sorte de chic français, quelque part entre Brigitte Bardot et Laetitia Casta. » C'est ça, le chic français. Bon, c'est un polar, hein, un vrai polar. Frédéric.
Pitié, Jérôme Garcin. pitié. Arrêtez de mettre au programme Grégoire Delacour.
C'est
Joël
la
Dicker.
Seule bonne vente de cette
et,
saison.
Et encore, toi, tu viens juste de rentrer dans le club. Ça fait des années qu'on lui dit d'arrêter. Ça fait des années.
On est sympa, nous. On vient. On vous a rien fait. Et voilà, on vient parce qu'on aime la littérature. Non, on vient en paix.
Est-ce que tu as essayé de le lire?
Pourquoi nous punir?
Est-ce que tu as essayé,
j'ai essayé de le lire. J'ai essayé de
le
lire.
Tu parles bien dans ta chronique du Figaro Magazine de Joël Dicker.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis.
Et de Delacour.
Peut-être. Il faut se dire aussi que peut-être. Je ne crois pas qu'il y ait un seul auditeur du Masque et la Plume qui lise Guillaume Musso. Donc, voilà, je ne sais pas. Je vois personne lever la main, en tout cas. J'ai cherché de la poésie, j'en ai trouvé. Il y a cette phrase, le Mistral avait éclairci la nuit et constellé le ciel d'étoiles. C'est beau, comme
c'est
du
beau.
Catherine Pancol.
C'est beau. Catherine Pancol, j'ai souvent inscrit.
Oui. Et puis, il y a une scène de sexe qui est intéressante.
C'est laquelle?
Les corps qui se mélangent et se dissolvent jusqu'à se fondre dans les vagues et le vent, allitération en V.
Et le désir qui est brûlant.
Et ensuite,
quelques lignes avant, c'est le désir qui est brûlant.
Le plus fort, c'est. Mais là, c'est là où vraiment, j'ai trouvé ça très sexy. Les cris qui se mêlent à ceux des mouettes. C'est-à-dire que la conception de l'orgasme de Musso, c'est. T'es en train de faire l'amour et t'entends les cris des mouettes.
Ouais.
Ok.
Bon. On est dans le sud-est.
Sinon,
hein.
J'ai vu page 32.
Non, mais ça va, je pense. Enfin...
Un hommage à Joe Dassin.
Ah oui?
C'était hier, c'était il y a une éternité. On ira, etc. Donc, importance de l'intertextualité chez Guillaume Musso, parce qu'il cite Joe Dassin, comme ça, sans le citer. Bon, je vous laisse.
Donc, Patricia, tu as aimé?
Eh bien, moi, je vais vous dire que pour des raisons personnelles, en ce moment, je passe beaucoup de temps à récurer, à ranger, à être dans la poussière, à faire des cartons. Donc, le fait de lire, ça me distrait, mais terriblement. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est un bonheur absolu. Et donc, je n'ai pas du tout détesté ce livre. Ouais, Au début, si.
Donc, tu vas mal, en fait, pour l'instant.
Non, je ne vais pas mal du tout. Grâce à la lecture, je ne vais pas mal. J'ai trouvé le début, mais absolument catastrophique. C'est effectivement bourré de poncifs, où tu as les jolies femmes qui sont juchées sur des talons hauts, les intellos qui perdent leurs cheveux, les journalistes qui sont curieux, le plaisir qui est brûlant, enfin, ce que je disais tout à l'heure. Bref, il y a un régionalisme de pacotille, enfin, dont vraiment...
Mais ça, c'est parce que c'est sa région.
Oui, mais il peut parler de sa région autrement.
C'est aussi la région de Scott Fitzgerald.
Et puis, on s'en fiche de sa région parce que, en fait, je me suis dit, mais au fond, il dit qu'il situait toujours ses histoires aux États-Unis et que là, c'est en France, comme si c'était... Mais en fait, ça n'a aucune incidence sur l'histoire. Je veux dire, c'est pas le Lys dans la vallée de Balzac, si tu veux, où tu peux parler de tellurisme en termes... Non, mais c'est vrai, ça, on s'en fout que ça se passe là.
Mais t'as aimé quoi, alors?
Mais j'ai aimé parce que je trouve que quand ça s'énerve, quand même, il sait manier le suspense. Il y a quand même des trucs, tu as envie de savoir, tu continues. Il y a un effet retard puisque qui est assez judicieux et qui est bien...
Un effet retard?
Oui, parce que l'affaire, elle se passe en 1992 et qu'il raconte...
82.
Non, 92.
92
92. Et qu'il le raconte en 2017. Donc, si tu veux, tu as
une
période...
Il y a le même système dans le dernier Joël Dicker.
Ah bah peut-être, mais je n'ai pas lu le dernier Joël Dicker.
Mais pas
je
dans le Delacour.
Je trouve qu'il y a une fois... Il y a un ping-pong.
On devient des pros, spécialistes.
Il y a un ping-pong dans les dialogues. Je trouve qu'il y a des descriptions qui ne sont pas si mal que ça. C'est, d'une certaine manière, c'est rondement mené. Maintenant, ce ne sera jamais Chandler, ce sera jamais Simenon ou qui sais-je. Parce que, alors que pourtant, il y a matière, ce n'est pas du tout creusé. En fait, on aurait envie de savoir pourquoi cette fille les possédait tous. C'est-à-dire pourquoi il y avait, une telle emprise. Non, mais franchement, et on ne sait pas, en fait. Parce que la description que tu as faite de Vinca tout à l'heure, enfin, ça tient en trois lignes, quoi, c'est tout. Alors que ça pourrait être...
Mais tu as dit tout le problème.
Sérieusement, ce que tu dis, c'est que si on ne va pas bien, si on a des problèmes...
Bah,
quand on récure tout le temps, c'est qu'on a des problèmes.
Mais c'est que c'est sale et qu'on veut que ce soit propre.
Que ça peut faire du bien de lire Musso, c'est ça.
Non, mais la lecture que nous m'a fait du bien. Bon, voilà,
alors,
ça m'a distrait.
Allez, quelques mots, Jean-Claude, parce que on va passer au conseiller.
La lecture m'a pas fait du bien du tout. Non, vraiment pas. Non. C'est le problème, c'est l'absence de style, quoi. À partir de là, ça devient pénible, quoi. Enfin, c'est voilà, quoi. Mais comme on était obligé de le lire, moi j'ai la conscience professionnelle, donc je l'ai lu jusqu'au bout. Je l'ai lu comme on regarde de mauvaises séries ou des téléfilms, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite les limites, on connaît les faiblesses, et puis on regarde parce que on regarde. Mais je regarde plus la télé depuis des années. Mais bon là, voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel.
Voilà.
Ce qui est étrange, c'est vrai qu'il y a un inexplicable succès quand même. C'est étonnant, c'est que les gens veulent quelque chose de
un succès tel qu'il a écrasé Marc Lévy depuis quelques années. Hein. Ah tiens, faut que j'inscrive Marc Lévy à un prochain Maz. La jeune fille et la nuit chez Calman Lévy, c'est Guillaume Musso. Allez, un conseil d'un livre que vous auriez aimé. On va commencer avec Patricia.
Encore moi. Alors, La journée de la Vierge de Julie Marx, c'est aux éditions de l'Olivier. C'est un livre dont j'ai vraiment eu tort de ne pas assez parler.
Tout le monde dit qu'il
c'est
est très
bien. C'est un premier
roman,
c'est absolument extraordinaire.
On dit même que ce Marx-là est capital, d'ailleurs, souvent. Hein.
En fait, je crois qu'elle a travaillé pour Cosette, absolument. Qu'elle a travaillé pour un blog de Libération, La Mouche et la Vitre, qu'elle écrivait des textes. Et là, donc, c'est un premier roman. Ça se passe le 15 août à Paris. Vous imaginez qu'on a tous vécu ça un jour. Il fait chaud. C'est silencieux, il n'y a personne.
Il faut récurer.
Et quand on vit tout seul, on se pose. On est encore plus triste, disons. On est encore plus triste. Et elle décrit ça, c'est une trentenaire, une fille qui a un bon boulot, qui est plutôt bien dans la vie, une jeune femme moderne, mais bon, il y a des grosses carences dans sa vie, notamment elle n'a pas de Jules, elle aimerait bien en avoir un, évidemment, c'est le principal. Et elle est confrontée à ça en ce 15 août. Et ça part de rien, finalement. Et il y a une lettre, par exemple, qu'elle écrit à sa solitude, qui est absolument géniale. Elle lui dit, mais combien tu veux? Je te donne 10 000 dollars, 20 000 dollars, mais tire-toi. Je te les donne, mais tire-toi. Et tout est dans cette veine-là. C'est extraordinaire. Un petit bijou.
Ah, c'est aux éditions de l'Olivier. Et c'est
La journée de la Vierge.
Le conseil de Frédéric.
On reste à Paris avec les carnets de Shirley Goldfarb, Montparnasse 1971-1980, qui sont réédités au Quai Voltaire, dans la collection Petit Quai Voltaire. Là aussi, un bijou absolu. Shirley Goldfarb, c'est une peintre américaine qui traîne dans les cafés, qui prend des notes. Ça se passe au Dôme, à la Coupole, au Flore. Donc là, c'est bourré d'aphorismes. Je dirais que c'est une version nihiliste des mémoires de Simone de Beauvoir que la Pléiade vient d'éditer, de rééditer. C'est les mêmes endroits.
On en parlera dans 15 jours au Masque et la Plume.
Ah, très bien, parce que c'est très très important.
J'aime bien avoir ton approbation.
Et voilà. Oui, non, mais franchement, mais c'est marrant parce que je les ai lus, j'ai lu les mémoires.
Ça, c'est une émission, on parlait et de Guillaume Musso et de Simone de Beauvoir.
Et Simone de Beauvoir, voilà. Non, mais c'est vrai que. Alors, il y avait eu ce spectacle avec Judith Magre au théâtre, mis en scène par Caroline Loeb, qui était extraordinaire. Donc, à l'époque, j'étais déjà tombé amoureux de Shirley Goldfarb. Mais je voudrais vous lire quelques extraits juste très rapidement. Mais
rapidement, parce que l'émission va se terminer.
S'il ne me restait qu'un seul de mes biens, lequel choisirais-je? Mes chaussures à plateforme Bordeaux, les plus hautes et les plus ridicules. Sois silencieuse, à moins qu'il n'y ait d'autre issue que la parole. Il y a des trouvailles tout le temps. On dirait Dorothy Parker, en fait. Voilà, elle aurait pu tout faire. Elle écrit son épitaphe. Elle aurait pu tout faire. Elle a choisi de ne rien faire. Et en choisissant le rien, elle eut du temps pour tout.
Et c'est aux éditions
Quai Voltaire.
Mon conseil, c'est un tout petit livre qui m'a bouleversé, que je vous conseille, qui s'appelle L'homme qui aimait les arbres, de Jean-Marie Borzec. C'est aux éditions Bleu Autour, qui est une toute petite maison d'édition située dans l'Allier. Et c'est tout simplement un adieu magnifique, bref, à son père Ernest, qui était forestier, qui est mort à 95 ans dans une maison de retraite dans le Limousin, et qui aimait les arbres, écrit Jean-Marie Borzec, comme les paysans aiment leurs bêtes. À la fin, Ernest perdait un peu la tête, il demandait à son fils, mais qui est donc ton père? Ensuite, tu viendras à mon enterrement. C'est écrit avec beaucoup de délicatesse, une grande émotion, et vraiment, si vous aimez en plus le fameux livre, petit livre de Giono, L'homme qui plantait des arbres, eh bien, ne manquez pas L'homme qui aimait les arbres, de Jean-Marie Borzec, aux petites éditions Bleu Autour, le conseil de Jean-Claude.
Alors, j'ai beaucoup aimé Jean-Marie
Borzec. Tu l'as lu aussi?
Oui, j'ai beaucoup.
C'est merveilleux,
aimé.
Hein.
Ah oui, tout à fait. Non, alors moi, comme on est en pleine Coupe du Monde de football, j'ai voulu apporter l'hommage de la littérature au football, et en tout cas apporter une contribution littéraire à la Coupe du Monde. Donc, je recommande deux livres qui sont que j'ai extraits de ma bibliothèque et qu'on peut trouver. Le Eduardo Galeano, Football, oui. Ombre et Lumière, qui est le livre de chevet de ceux qui aiment le football, donc qui a été écrit en 1997, édition augmenté en 2014, un an avant la mort de Galeano, qu'on trouve chez Lux, qui est un éditeur de Montréal, mais distribué en France. Et c'est un livre absolument merveilleux sur le football, beaucoup sur l'Amérique du Sud, et sur l'archéologie du football, sur les destins des grands joueurs, sur le paradis de la gloire, l'abîme de la ruine. Enfin, c'est un très, très, très beau livre. Et je vous recommande vraiment par-dessus tout le Georges Aldas, la légende du football, qui était un écrivain.
Merveilleux écrivain.
Qui a été, ce livre-là a été écrit en 1981. Il est à l'âge d'homme. C'était un écrivain genevois. Je ne vous cite qu'une phrase. Tout match de football qui commence est un matin du monde.
Tous ces conseils très variés, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Patricia Martin, Jean-Claude Raspienjas, Frédéric Becbédé, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lysiane Selam. Ce soir, au Charles Trenet, je les remercie, Olivier Dupré, Jean-Benoît Tétu, ainsi qu'Éric Villeenfin. La réalisation était, comme chaque semaine, signée Didier Lagarde. Vous notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, ce sera le jeudi 5 juillet. Je vous attends à 20h, nombreux, je l'espère, au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions. L'une consacrée au film et l'autre au livre de l'été. Dans une semaine, on parlera de cinéma. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.